Bienvenidos a este informativo de Radio France. Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. C'est votre radio dans toute sa richesse, toute sa diversité également. Et ce soir, c'est avec Ana Carolina Pelis de la rédaction brésilienne pour le retour des touristes en France et à Paris particulièrement. Pour la rédaction russe, Denis Strelkov.
Добрый вечер.
Vous reviendrez sur le déplacement du président russe en Ukraine, à Marioupol. Et puis Alireza Manavzadeh de la rédaction persane. Pour les acquis du soulèvement qui a secoué l'Iran ces derniers mois. Revenons tout d'abord sur ce qui a fait la une de l'actualité. La rencontre au sommet entre les présidents chinois et russes au moment où l'Occident fait cause commune concernant l'Ukraine. C'est plus que de la diplomatie, c'est de la géopolitique. C'est à Moscou que cette visite en grande pompe a eu lieu. Denis Strelkov, racontez-nous l'accueil qui a été réservé à Xi Jinping 4 ans après sa dernière visite dans la capitale russe.
Oui, effectivement, la dernière fois Xi Jinping a été à Moscou en 2019. Cette fois-ci, le leader chinois a été accueilli à la sortie de son avion avec l'orchestre. On a pu compter une centaine de soldats de garde présidentielle russe qui étaient présents à l'aéroport de Vnukovo, au sud de Moscou. Après, la direction de Kremlin dans un cortège qui comptait quelques dizaines de voitures noires livrées depuis la Chine à cette occasion spécifiquement. Et puis surtout, il tenterait des motocyclistes de la police russe. Il passait notamment par des quartiers résidentiels de Moscou à la grande surprise des habitants et sur les panneaux publicitaires de grands mots en russe et en chinois. On salue le président de la Chine en Russie. Ces placards ont été partout et ont été payés par les hommes d'affaires chinois présents en Russie. Il est précisé en bas de ces panneaux. Mais pour accentuer l'ambiance, la télévision russe, les expressions les plus sages, les plus connues de Xi Jinping ont été diffusées en boucle. On en écoute un extrait.
Guo bu yi, li wei li, yi yi wei li ye. Zai guo ji he zuo zhong, wo men yao zhu zhong li, geng yao zhu zhong yi. Zhonghua min zu li lai zhu zhang.
Donc on entend le président chinois là.
Effectivement, donc je traduis du chinois. Ce n'est pas pour son bénéfice que l'État doit agir, mais pour la justice et le bénéfice de la société. Quand on s'occupe de nos relations internationales, on doit penser de nos bénéfices, mais aussi de la justice. Et puis ça continue dans ce sens. Il y a plusieurs expressions qui tournaient en boucle, les mots qui sont certes très justes, mais assez vagues sur la façon de mener sa politique.
Alors après, c'est au Kremlin, il arrive au Kremlin, Xi Jinping, il est accueilli par Vladimir Poutine et là, la discussion dure 4 heures. Et même si cela s'est fait à huis clos, c'est-à-dire sans aucun témoin, est-ce qu'on a une idée de ce dont il a été question ?
Je veux le citer, le président chinois, encore une fois. Il y a des changements en cours qui n'ont pas été vus depuis plus de 100 ans, a déclaré Xi Jinping à Poutine après un dîner officiel le 21 mars. Et ensemble, nous conduisons ce changement. Comme vous le voyez, ces mots sont assez forts, mais qu'est-ce qui se cache derrière ces mots ? En fait, on en sait très très peu. Tout d'abord, le sujet qui a dû être abordé selon tous les spécialistes sont des livraisons potentielles d'armement à la Russie par la Chine, car pour gagner la guerre en Ukraine, c'est ça dont Vladimir Poutine a besoin. Pas d'annonce dans ce sens, la Chine n'évoque pas cette possibilité, au moins de manière publique.
L'autre sujet de discussion de la Chine avec la Russie, c'est le plan de paix pour l'Ukraine, proposé par par Pékin, et c'était le mois dernier.
Effectivement, il comprend 12 points, y compris le non-imposition des sanctions économiques par les pays de manière unilatérale, mais sans passer par le retrait des troupes russes des territoires ukrainiens occupés. Le plan qui serait difficilement applicable par la Russie et l'Ukraine, qui a déjà été refusé par Kiev, Vladimir Poutine l'a confirmé lors de la conférence de presse. La Chine et la Russie en ont parlé. Là aussi, aucune avancée notable n'a été acquise. C'est-à-dire que dans ce qui concerne la guerre en Ukraine, qui était au cœur de la discussion selon les experts, leur rencontre entre Poutine et Xi Jinping aurait été sans succès.
L'autre sujet important de cette rencontre, c'est la coopération économique entre les deux pays. Alors, la Chine et la Russie ont notamment annoncé un accord sur le gazoduc appelé Force de Sibérie 2. C'est un immense projet qui permettra de transiter. À 50 milliards de mètres cubes de gaz par an, de transiter. Je vais y arriver.
Oui, effectivement, il s'agit d'un projet clé pour la Russie, vu que c'est devenu beaucoup plus compliqué pour le Kremlin de vendre son gaz à l'Europe après les explosions sur le Nord Stream l'année dernière. Mais il est important de rappeler que ce projet est apparu pour la première fois sur la table de négociation en 2006. Mais sa mise en œuvre a toujours été extrêmement problématique suite à un coût élevé et des risques financiers pour les deux côtés. Ces problèmes n'ont jamais été adressés ni résolus. Dans les faits, il n'y a pas eu d'engagement ferme conclu entre la Russie et la Chine lors de sa rencontre bilatérale. La Chine s'est engagée à faire tout pour accélérer la mise en œuvre du projet. Mais pour l'instant, ça ne va pas plus loin. Donc il est probable que là aussi, on est plutôt sur l'effet d'annonce utilisée à des fins politiques, mais pas sur des projets qui vont forcément aboutir.
Anna Carolina Pellis, comment est-ce que la rédaction brésilienne analyse cette visite effectuée par Xi Jinping en Russie ?
Nous avons perçu le voyage de Xi Jinping en Russie comme un soutien important pour le président russe, qui est le premier chef d'État d'un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU à être visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Xi Jinping s'active sur la scène internationale et présente la Chine comme un nouvel acteur incontournable de la diplomatie mondiale. Mais la visite n'a pas fait avancer la proposition chinoise sur un plan des pays pour l'Ukraine.
C'est d'ailleurs ce qui se passe en Ukraine qui vaut à Vladimir Poutine d'être poursuivi par la Cour pénale internationale. Alireza Manavzadeh, la République islamique d'Iran entretient de bonnes relations avec la Russie comme avec la Chine. Et cette rencontre a certainement intéressé, bien évidemment, les journaux iraniens.
Oui, j'ai comparé leur façon de relater cette rencontre à celle de grands journaux en France. Les phrases et les moments qu'ils ont mis en exergue montrent que leurs préoccupations sont complètement différentes de celles des Européens. En France, les journaux se sont plutôt intéressés à ce qu'a dit Xi Jinping en lien avec la guerre en Ukraine. Et c'est tout à fait normal, car les Européens ont peur qu'avec la consolidation de l'amitié sino-russe, cette guerre s'enlise. Le discours anti-occidental du président chinois partagé par Poutine a de quoi faire peur aux Européens. Alors que ce même discours plaît beaucoup aux autorités iraniennes, surtout Ali Khamenei. Les journaux qui sont pour la plupart sous l'emprise du guide et de son entourage, ont repris des moments et des phrases qui vont dans le sens de leur politique anti-occidentale. Par exemple, plusieurs journaux ont repris la dernière phrase de Xi Jinping quand il voulait se séparer de Poutine. Certains de leurs sites ont même mis en ligne la vidéo de ce moment précis.
Alors dites-nous en plus, quelle est cette phrase qui mérite une attention particulière ?
En fait, c'est une phrase ambiguë mais pleine de sens. Il a dit « Les transformations en cours actuellement, inédites, depuis plus de 100 ans, seront menées par la Chine et la Russie ensemble. » Et Poutine lui a répondu, je cite, « D'accord ». Il n'a pas clairement dit de quelle transformation il s'agit, mais en écoutant son discours, on comprend qu'il faisait allusion à la fin de la supériorité de l'Occident, notamment les États-Unis dans les relations internationales. Les phrases que les journaux iraniens ont particulièrement reprises sont des phrases qui évoquent la remise en cause de cette suprématie.
Soyons plus précis, qu'ont écrit les journaux iraniens ?
Je cite seulement quelques-unes. Par exemple, il a dit « Nous avons travaillé ensemble pour un monde multipolaire et une plus grande démocratie dans les relations internationales. Nous avons activement pratiqué un véritable multilatéralisme, promu les valeurs communes de l'humanité et défendu la construction d'un nouveau type de relations internationales. Je vous invite maintenant à écouter un extrait du discours de Khamenei pour voir pourquoi ces phrases ont été reprises par les journaux.
جنگ اوکراین رو به نظر من باید یه مقداری با یه دید عمیق‌تری نگاه کرد. این جنگ صرفاً یه حمله نظامی به کشور نیست.
کدی علی رمنی؟
ایدی لا گیر اون اوکراین دوات اتر انالیزه پلو پروفوندمان. on ne peut pas la réduire à une attaque militaire d'un pays par un autre. Le monde est au seuil d'un nouvel ordre mondial. Par conséquent, tous les pays du monde, y compris l'Iran, doivent trouver leur place dans cet ordre nouveau. Voilà pourquoi cette rencontre a été importante pour la République islamique.
Anna Karolina Pellis, après sa visite, la visite de Xi Jinping en Russie, eh bien le suivant, c'est Lula qui lui s'apprête à visiter la Chine.
Exactement. Et aujourd'hui, on a appris que Lula a dû retarder d'un jour son voyage en Chine en raison d'une pneumonie légère. Il voyage donc le dimanche et arrive à Pékin les lundis pour sa plus importante visite d'État depuis le début de son troisième mandat. Lula voyage avec une délégation des 200 chefs d'entreprise, mais aussi des députés, des gouverneurs et des ministres, dont le programme de président des rencontres bilatérales, événements officiels et surtout signature d'accords commerciaux. L'objectif du gouvernement brésilien avec cette visite est de relancer les relations avec les géants asiatiques et premiers partenaires commerciaux du Brésil, avec 152 milliards de dollars d'échanges bilatéraux l'an dernier.
Donc Lula va se rendre en Chine. Après, ce sera Emmanuel Macron, d'ailleurs le président français, la semaine suivante. Entre-temps, Lula, qui est allé aussi aux États-Unis, continue donc ses efforts pour rompre l'isolement international du Brésil qui avait marqué le mandat de son prédécesseur d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Il visite pour remettre le Brésil présent sur la scène internationale.
Effectivement, le Brésil est le principal exportateur des produits agricoles pour la Chine. Cette semaine, Pékin a mis fin à une suspension d'achat des viandes bovines brésiliennes à la veille de la visite de Lula. Le Brésil a suspendu en février ses exportations des viandes bovines vers la Chine pour des raisons sanitaires. Une suspension très appropriée car plus de 100 patrons du secteur de l'agrobusiness font partie de la délégation qui voyage avec Lula. Le président brésilien a pour objectif de signer également un accord bilatéral pour la construction du sixième satellite construit en partenariat avec la Chine. Les nouveaux modèles disposent d'une technologie qui permet de surveiller des écosystèmes tels que la forêt amazonienne, même avec des nuages.
Voilà la Chine qui est désormais très courtisée. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
20 heures à Paris.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
La rédaction russe de RFI revient ce soir encore sur la guerre en Ukraine. Il y a eu ce déplacement du président russe qui a suscité de vives réactions. Vladimir Poutine s'est rendu pour la première fois à Marioupol, cette ville sur la mer d'Azov, quasiment détruite il y a de cela un an. Denis Strelkov, donc, de la rédaction russe, ce voyage a été largement médiatisé.
Effectivement, c'est un peu comme un cinéma. Il est arrivé en hélicoptère, il est conduit soi-même la voiture de la marque japonaise, il a même respecter le code de la route et laisser passer d'autres voitures, indique le Kremlin. Et ce n'est qu'après, à la fin de ce déplacement, que la presse a été mise au courant, Philippe. On en sait très peu de ce déplacement, mais les détails du voyage sont surprenants et nous interrogent. Tout d'abord, il faut regarder le timing. C'est juste après que la Cour internationale pénale a émis un mandat d'arrêt qui vise Vladimir Poutine que le président russe s'est rendu à Mariupol. Certains disent même que c'était sa façon de répondre à cette décision de l'autorité judiciaire. On a des doute, car certes, le voyage pareil était préparé bien en avance, compte tenu des conditions de la sécurité, mais c'est une drôle de coïncidence. C'est pourtant la première visite de Vladimir Poutine qui a fait de cette guerre, ou comme elle appelle l'opération militaire spéciale, son affaire personnelle dans les zones occupées par les Russes, sauf la Crimée qui est sous contrôle de la Russie depuis 2014.
Et du côté de Volodymyr Zelensky?
Le président ukrainien a multiplié ses déplacements sur la ligne du front. Vladimir Poutine préférait parler aux militaires soit par la vidéoconférence, soit dans des endroits qui se trouvent à une certaine distance de tout risque, comme Rostov-sur-le-Don. Cette fois-ci, un changement de cap majeur dans la communication du Kremlin, c'est Vladimir Poutine qui reprend la main sur cette opération militaire. C'est de nouveau lui qui est aux manettes, une tendance qui était bien présente depuis des mois, mais qui semble se confirmer. En plus, pour le président russe, la ville de Mariupol est très symbolique. C'est par ici que passe normalement notamment les corridors terrestres de la Russie vers la Crimée, que l'Ukraine, selon divers experts, compte reprendre lors de la contre-offensive qui s'approche.
Alors, vous le disiez, c'est qu'au dernier moment qu'on a su que Vladimir Poutine allait à Mariupol. Vladimir Poutine, on en est vraiment sûr ?
Effectivement, beaucoup de détails de cette visite peuvent nous paraître assez étranges. Je vais revenir, mais pour l'instant, il n'y a pas de source fiable qui indiquerait que le déplacement n'aurait pas eu lieu. Les images ne semblent pas être fabriquées, et même les sources américaines, notamment John Kirby, l'un des responsables de la Maison-Blanche, indiquent que pour Poutine, ce voyage a été l'occasion de voir les défaillances de l'armée russe en Ukraine. Donc personne ne dit que le président russe ne s'est pas déplacé, et même des journalistes ont pu, avec la vidéo fournie par le Kremlin, établir son itinéraire.
Ouais, ce que je voulais dire, c'est que certains émettent l'hypothèse que c'était un sosie de Vladimir Poutine qui était dans la voiture.
Effectivement, on revient ici plutôt à différentes théories de complot. On n'a pas des preuves quelconques à ça. Et je pense qu'ici, cette information, il faut le prendre avec beaucoup de prudence, jusqu'à preuve de contraire.
Alors revenons sur les faits, tiens, Denis.
Le voyage de Poutine a eu lieu, selon des sources officielles, dans la nuit entre le samedi et dimanche dernier. Et le leader russe est arrivé dans la ville à hélicoptère. C'est quand même un choix qui est assez étrange pour la sécurité. Puis il se met au volant d'un SUV et conduit lui-même dans une ville dévastée par l'armée russe il y a un an. Il est accompagné par Marat Ousouline, le vice-président russe, qui lui explique comment la ville a été reconstruite. Et il souligne c'est pas la Russie qui l'a détruit à 90% de cette ville, mais l'armée ukrainienne. Comme indiquent les journalistes de BBC, les lieux les plus emblématiques de cette guerre, les endroits les plus touchés sont comme par hasard laissés de côté par Vladimir Poutine. Il ne visite ni le théâtre ni la maternité, les deux bâtiments visés par les bombardements russes qui sont les plus emblématiques, et il se concentre plutôt sur le quartier déjà reconstruit. L'homme politique se rend donc dans un quartier résidentiel Nevski, resterré récemment, sort de la voiture et rencontre des habitants de la ville. Au moins, c'est ça l'information qui parvient du Kremlin. Ce sont des résidents ordinaires qui sort pour saluer Vladimir Poutine. Il remercie le président russe, mais il y a un petit truc qui cloche quand même. Écoutez attentivement ce dialogue.
Aidez-nous à comprendre ce qui se dit, Denis.
Oui, excuse-nous pour la qualité, mais c'est ça qui est fourni par le Kremlin. Mon anniversaire, c'est dans deux semaines après le vôtre. S'excite un homme avec des cheveux blancs dans une veste noire. Moi, j'ai tout perdu, ose-t-il dire à Poutine. Mais maintenant, il a tout retrouvé. La corrige une femme présente aussi sur la vidéo. Mais ce n'est même pas cette petite discussion qui gêne. De l'autre côté du cours, c'est une autre femme qu'on peut entendre qui crie « Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est juste pour la démonstration. Ce n'est pas vrai ce qu'on vous montre, monsieur Poutine. » Cette phrase a été coupée de la plupart des reportages montrés à la télévision russe, mais sur le site du Kremlin, elle a été disponible pendant quelques jours.
Est-ce qu'on sait qui étaient ces personnes rencontrées par hasard, pas Vladimir Poutine, excepté cette femme courageuse.
Selon les médias ukrainiens, sont effectivement des habitants du Mariupol, donc pas des agents de FSB ou de sécurité. Il s'agit d'au moins un acteur et une activiste locale qui est toujours, selon des journalistes connus pour la position pro-russe. Difficile de vérifier ces informations car des journalistes indépendants n'ont pas d'accès libre à Mariupol.
On pourrait penser que dans la population russe, cette visite aurait un effet rassembleur sur le peuple. Est-ce que ça a été le cas ?
On pourrait penser ça, effectivement, que ça va remobiliser la population qui est déjà dans un an de guerre. Et cela a été sans doute un tout petit peu le but de cette visite. Mais pour l'instant, les signes que c'est le cas ne sont pas là. On n'a pas des sondages quelconques qui nous le prouvent.
Denis Strelkov de la rédaction russe de Radio France Internationale. Les Iraniens sont en train de célébrer leur nouvel an. Pour ce qui est de l'année dernière, au cours de l'année qui vient de s'écouler, l'Iran a été secoué pendant plusieurs mois par un soulèvement causé par l'assassinat d'une jeune fille kurde par la police des mœurs. Elle l'accusait d'avoir mal porté son voile. Le calme semble être revenu aujourd'hui, mais à quel prix ? Votre analyse, Alireza Manavzadeh de la rédaction persane de RFI, quels sont les acquis de ce mouvement insurrectionnel ?
Je dois d'abord dire que selon les observateurs locaux, l'accalmie sera précaire si le régime ne tire pas de leçons de cette insurrection. Les jeunes ont payé un lourd tribut avec au moins 520 morts, dont 70 enfants, et presque 20 000 arrestations. Le régime est aux aguets, mais les Iraniens, surtout les femmes et les jeunes filles, continuent de le défier. Par exemple, d'innombrables femmes apparaissent en ce moment sans voile dans les rues, mais le régime n'ose pas les affronter. L'aile dure du régime grogne, mais les forces de sécurité restent prudentes. C'est un acquis très important dont la remise en cause provoquerait sans doute une résistance acharnée. Pour vous montrer l'importance de cet acquis, je vous invite à écouter un extrait d'un discours du guide suprême prononcé il y a presque 3 ans.
Ma ke nagoftim agar kasi tuy khane khodesh dar moqabel namahram roussarisho bardash ma uro taqib mikonim ma uro taqib nemikonim tu khane khodesh.
Qu'est-ce qui avait été dit en 2020?
Il dit une femme chez elle peut s'habiller comme elle veut, mais dans l'espace public, elle n'a pas le droit de se promener sans voile. On est dans un pays musulman et on ne peut pas transgresser les interdits. Apparaître sans voile dans les rues est illicite. Autrement dit, le voile est une obligation religieuse.
Il y a donc une transgression d'un interdit religieux par les Iraniennes, c'est bien ça?
Tout à fait. Comme je viens de le dire, l'aile dure du régime grogne, mais les forces de sécurité n'interviennent pas. On ne sait pas combien de temps le régime va supporter cette situation, mais s'il la supporte actuellement, c'est parce qu'il se trouve en position de faiblesse. Il faut savoir que dès son avènement, la République islamique a transformé le voile obligatoire en un pilier de son pouvoir. Transgresser massivement cette obligation a une signification politique très importante. Pour les autorités de la République islamique, le guide suprême en tête, laisser les femmes transgresser cette obligation, c'est renoncer à l'islamité du régime, c'est-à-dire à sa principale source de légitimité. Je vous invite à écouter un autre extrait de son discours sur le voile.
یه عده نادانسته همون خطی رو دنبال میکنن که دشمن نتوانسته است اون خط رو در کشور به نتیجه برسونه.
Ali Reza, que disait Ali Khamenei?
Il disait actuellement, je rappelle que c'est en 2020 qu'il a prononcé ce discours. Actuellement, une poignée d'individus composés de journalistes, de pseudo-intellectuels et même de mollahs veulent réaliser un projet que nos ennemis n'ont pas réussi, malgré tant de dépenses, à mettre en œuvre. Ils nous disent que si l'imam Khomeini, guide de la révolution, a donné l'ordre au début de la révolution que les femmes doivent porter le voile, il ne visait pas toutes les femmes. C'est du n'importe quoi, c'est Khamenei qui le dit. Nous étions là et je sais bien ce qu'a dit l'imam Khomeini. Il s'est levé comme une montagne contre une pratique clairement illicite que la dynastie Pahlavi et ses disciples avaient répandue dans le pays. Il a dit que le voile des femmes doit exister.
Il semble qu'à la suite du mouvement insurrectionnel déclenché justement donc par la mort de Mahsa Amini, qu'il a atténué, on va dire, ce discours.
Tout à fait. Je vous invite à écouter un extrait de son discours prononcé le 4 janvier dernier.
Montaha, un kazani ke hijab ro be tour kamel riayat nemikonan, ina ro nabad mutaham kard be bidini ya zedde inqilabi.
Quelle est donc sa position officielle aujourd'hui?
Voilà, il dit le voile est une obligation religieuse, il n'y a pas de doute. Mais s'il y a des dames qui ne respectent pas à la lettre cette obligation, il ne faut pas les accuser d'irreligiosité ou d'être contre-révolutionnaires. Non, je l'ai déjà dit aux jurisconsultes quand j'étais en voyage dans une ville de province. Un tiers des femmes qui étaient venues me voir étaient mal voilées. Elles n'étaient pas contre-révolutionnaires. Elles peuvent laisser apparaître une partie de leur chevelure. Et il faut bien savoir que ce discours montre que le régime a cédé aux femmes sur un terrain où il puisait jusqu'alors une partie de sa légitimité. Il se trouve ainsi face à un dilemme. Accepter cet acquis est un signe d'échec. Revenir en arrière est très risqué.
Bien évidemment, la rédaction persane de RFI suit tout cela de très près. C'était Ali Reza Manavzadeh. Peut-être que les manifestations à répétition contre la réforme des retraites en France et les violences qui les émaillent désormais aura un impact sur le tourisme. En attendant, Anna Carolina Pellis de la rédaction brésilienne, le secteur se porte mieux, beaucoup mieux.
Oui, après la chute brutale lors de la pandémie de Covid-19, l'activité à Paris et en Île-de-France est repartie à la hausse en 2022. La capitale française et ses environs ont accueilli plus de 44 millions de visiteurs l'an dernier, soit une augmentation de 95% par rapport à 2021, selon les comités régionaux du tourisme de Paris et d'Île-de-France. Pour les professionnels du secteur, la tendance devrait se poursuivre en 2023, malgré les grèves qui touchent Paris. Le tourisme a généré presque 20 milliards d'euros de revenus en 2022, mais le secteur d'activité n'est pas encore revenu au niveau d'avant la pandémie.
Mais justement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas retrouvé le niveau de 2019?
Bon, la différence du nombre des visiteurs s'expliquerait en grande partie par le manque des touristes en provenance des Chine, encore bloqués dans leur pays à cause du Covid-19. Les Chinois occupaient la 7e position en nombre de visiteurs en 2019 et la 3e en termes de consommation. Mais après la réouverture des frontières chinoises, les professionnels du secteur du tourisme sont optimistes et pensent que les Chinois reviendront cette année malgré le climat social tendu en France.
Mais justement, la question de l'effet des manifestations contre la réforme des retraites sur le tourisme, elle est posée cette question.
Exactement, pour savoir si les grèves, les ordures éparpillées dans les rues de la plus belle ville au monde, ainsi que les manifestations avec scènes de violence qui ont inondé les réseaux sociaux et les médias les dernières semaines, ont effrayé les touristes. Nous avons parlé avec Naldo Silva. Il a une agence de tourisme à Paris qui accueille des touristes brésiliens. On va l'écouter.
Eu acho que está muito recente ainda assim, para as pessoas que vão viajar, ou seja, esses vídeos que estão circulando nos últimos dias, né?
Alors, comment est-ce qu'il commente la situation?
Il dit que c'est encore trop tôt pour ressentir l'impact des manifestations et que les vidéos qui circulent et montrent l'accumulation des ordures et les manifestations ne donnent effectivement pas une très bonne image de Paris, mais il n'a pas eu pour l'instant d'annulation de la part de ses clients. Il estime que l'impact des grèves et des manifestations dans le secteur ne devrait pas être important. Il pense que cette situation ne durera pas longtemps, ou du moins il l'espère. Il dit que pour la haute saison, il a déjà beaucoup de réservations et espère que ça reste comme ça.
Anna Carolina, qui sont les plus fervents à découvrir la France?
Parmi les étrangers visitant la ville lumière en 2022, les Américains occupent la première place avec 2,4 millions de touristes. Les professionnels du tourisme croient qu'ils sont attirés par les succès de la série de Netflix Emily in Paris, qui raconte les péripéties de la jeune Américaine de Chicago dans un Paris tirer des contes de fées où il n'y a pas de grève ni de manifestations. En termes de nombre de visiteurs, les Américains sont suivis par les touristes européens. Certains, comme les Britanniques, les Italiens et les Néerlandais, sont plus nombreux aujourd'hui qu'avant la pandémie. Une autre information intéressante est que la fréquentation des hôtels de la région parisienne a augmenté de 112% en 2022. Les locations de vacances, en revanche, ont baissé de 22% par rapport à la période pré-pandémique, une baisse plus forte que celle des hôtels. La quasi-totalité des musées, monuments et attractions touristiques ont enregistré une forte hausse des fréquentations l'an dernier par rapport à 2021, mais l'affluence est tout de même inférieure à celle de 2019. Le Louvre a reçu 19% de visiteurs en moins. La même tendance est observée dans un autre lieu touristique célèbre, les châteaux de Versailles, qui a connu une baisse des fréquentations de 16%.
Anna Carolina, pelliste de la rédaction brésilienne de RFI. C'était Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur le site internet de RFI.